L'année 2012 n'a pas été une année facile, semble-t-il, pour les athées. Michel Virard, vice-président de l'Association humaniste du Québec, sur quoi se base-t-on pour dire ça? Bonjour d'abord.
Bonjour. Bien, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2012 qui ne se passaient pas auparavant. En particulier, le fait qu'il y a des persécutions qui sont basées maintenant sur des, on pourrait dire, des faits Internet. C'est-à-dire des propos qui ont été tenus sur Facebook ou sur Twitter ou sur des blogs et qui sont maintenant utilisés par les autorités qui en veulent absolument contrôler ce qui se dit au sujet des religions dans un certain nombre de pays. Bon, c'est sûr qu'il y a actuellement une majorité de pays qui sont de majorité musulmane et qui, à cause de cela, sont typiquement très anti-blasphème. Donc, vous avez
donc c'est pire dans les pays de culture musulmane, c'est pire.
Oui, parce que les peines. Alors, il existe. Il y a deux types de crimes, si on peut dire, qui sont de ce genre qu'on retrouve sur la planète, qui sont d'une part le blasphème et d'autre part l'apostasie. Les deux sont criminalisés dans beaucoup de pays. Et il y a, même dans les pays occidentaux, vous allez encore trouver des lois anti-blasphème.
Je pense qu'il y a aux États-Unis, entre autres, non?
Eh bien, j'ai une mauvaise surprise pour vous. Au Canada aussi.
Ah ouais?
Article 296 du Code criminel du Canada.
C'est-à-dire que j'ai pas le droit de dire quoi?
Vous n'avez pas... C'est la libelle blasphématoire.
Me tentez pas, hein?
Oui. Je sais, nous sommes en ondes et c'est risqué.
Vous connaissez bien Armand Baillargeon, hein?
Bien sûr.
Ah
oui,
ouais, vous connaissez, oui.
Et écoutez, c'est une... Je sais que c'est une surprise parce que beaucoup de Canadiens s'imaginent que, bon, les lois sur le blasphème ont disparu. On n'a pas de loi sur l'apostasie, c'est déjà quelque chose quand même. Mais sur le blasphème, il y a toujours la libelle blasphématoire qui est un article qui doit être en principe interprété vis-à-vis de la Charte des droits.
Mais il faut que vous expliquiez quand même un peu ce que c'est que la libelle blasphématoire pour...
La libelle blasphématoire, c'est lorsque vous allez utiliser un langage peut-être excessif vis-à-vis des choses qui sont sacrées pour un certain nombre de religions. À l'origine, c'était évidemment fait pour les religions chrétiennes.
Donc, mais c'est comme ça, cette loi, elle est valable à travers le Canada, donc il n'y a pas des régions qui sont plus visées que d'autres là.
Non, mais il peut y avoir au niveau provincial des lois additionnelles. Mais au niveau du code criminel, vous risquez 2 ans de prison si vous tenez des propos qui sont une libelle blasphématoire.
C'est
je vous rassure tout de suite quand même, parce que ça n'a pas été appliqué depuis 1936.
Bon.
Alors c'est un peu, ça s'est calmé, mais il y a quand même une personne qui a été condamnée en 1934 à 1 an de travaux forcés pour blasphème.
Oui. Malgré la discrimination, parce qu'on peut appeler ça de la discrimination, l'athéisme est en progression. C'est étonnant, non? Même aux États-Unis, un pays comme les États-Unis où on voit que les chiffres montent, les pourcentages montent.
Oui, il y a eu un changement assez radical entre 2000 et 2012, on peut dire, à ce niveau-là, au niveau de la planète. D'abord,
comment vous l'expliquez ça?
Il y a plusieurs phénomènes, je pense, qui ont contribué à ça. Vous avez évidemment l'augmentation générale du niveau d'éducation sur la planète. Ça, on sait que c'est une corrélation très forte entre le niveau d'athéisme et le niveau d'éducation.
Ah.
Oui.
Donc on se libère de l'Église et on se libère des pouvoirs.
Exact. Donc il y a le fait de comprendre mieux son environnement a un effet direct sur la croyance religieuse.
Mais aux États-Unis, par exemple, c'est vraiment relié à l'éducation parce que
non,
je crois que
c'est
les
pas
chiffres...
relié à l'éducation, c'est relié à un autre phénomène. Je pense que c'est le contre-coup en fait indirect des attentats du 11 septembre qui ont fait réaliser que l'extrémisme religieux avait des conséquences. Et jusqu'à présent, les athées étaient relativement, je dirais, discrets aux États-Unis, en fait depuis les années 50, à cause de la lutte contre l'URSS, la guerre froide. Ça a créé une espèce de fausse dichotomie entre, d'un côté, le parti de Dieu et d'autre côté, le parti des athées, qui était soi-disant représenté par l'URSS.
Je vais vous poser la question à vous, M. Virard, et à Normand Baillargeon. Un candidat qui se présenterait à la présidence aux États-Unis aujourd'hui et qui dirait ouvertement qu'il est athée, est-ce qu'il a une chance d'être élu?
Très peu de chance.
Je crois même que les sondages montrent que non. Et c'est en bas de liste de tout ce que les gens peuvent avoir
et
de mauvais.
Et ça serait causé par quoi?
la prégnance de la religion encore dans ces pays-là, même si, comme le dit Michel, hein, il y a un accroissement de l'athéisme aux États-Unis, et les athées sont de plus en plus visibles. Hein, ils mènent des campagnes sur des autobus
d'ailleurs,
ou ailleurs.
D'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, c'était intéressant parce que dans le New York Times, on disait que les athées représentaient le groupe religieux, entre guillemets, qui est le plus en progression aux États-Unis.
Ils sont passés de 1 à 5 % à l'espace de très, très peu de temps.
Parlement, ou au Québec, même. Je veux dire, à ma connaissance, il n'y a personne qui s'est dit athée,
non,
qui s'est présenté au pouvoir.
Non, au Québec non plus.
C'est ça. René Lévesque n'était pas athée?
Peut-être, mais est-ce qu'il a...
Il y a la perception. Il se trouve que jusque dans les années 2000, les gens qui étaient athées préféraient, aux États-Unis et même au Canada, préféraient garder ça pour eux. Ce qui s'est produit aussi, et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a eu la publication d'un certain nombre d'ouvrages qu'on appelle le nouvel athéisme aux États-Unis. Ça a été lancé par Dawkins, il y a eu aussi Christopher Hitchens, vous avez Daniel Dennett aussi, qui sont des gens qui ont produit des livres. Samaris aussi, qui ont produit des livres
et
qui ont été des best-sellers.
Ils avançaient quoi?
Eh bien, ils ont pris le taureau par les cornes, si on peut dire.
En niant l'existence d'un Dieu.
Absolument. C'est le cas de Dawkins avec son livre The God Delusion, c'est-à-dire l'illusion de Dieu, a fait un tabac. C'est vraiment un livre qui s'est vraiment beaucoup vendu.
Ici, moi, j'ai fait Là-haut, il n'y a rien. Et puis, un grand nombre d'athées, de libres penseurs exprimaient leur position. J'ai réuni des textes, enfin, dont des textes de Dawkins et des autres là, sur cette question.
Où est-ce qu'on vit le mieux son athéisme en ce moment sur la planète?
Il y a l'Angleterre et la France où on n'a pas trop de problèmes. Les pays scandinaves aussi. C'est pas, on ne va pas vous embêter pour parce que vous êtes athée.
C'est pas un problème majeur.
Non. Même au Canada, on ne peut pas dire qu'on est, disons, persécuté. Il y a cependant un certain ostracisme qui se maintient, oui.
Alors, Michel Virard, vous êtes vice-président et porte-parole de l'Association humaniste du Québec. Je rappelle que ces chiffres qui sont sortis et ce rapport a été rendu public par l'Association humaniste internationale, donc qui regroupe quand même 120 associations d'athées à travers le monde. C'est pas rien, donc c'est une étude quand même assez sérieuse. Merci beaucoup. Merci.
Et puis, c'est le moment de la... Vous pouvez rester, M. Virard, si vous voulez. Alors, mon cher Normand, vous êtes proche intellectuellement des milieux sceptiques. On a parlé des athées, des humanistes. Qu'est-ce que ça signifie, la période des fêtes, cette période de l'année, Noël, tout ça pour
les athées,
les athées,
humanistes, les sceptiques, oui. Écoutez, il y a plusieurs réactions. Le mouvement humaniste, athée, sceptique est vaste. Il y a toutes sortes de courants là-dedans. Il y a certains d'entre nous, je dirais nous carrément, qui ne fêtent pas. Hein, mais ils ne fêtent pas en disant « je ne fête pas la période de Noël ». Puis quand on leur dit « pourquoi ?», ils vont dire « qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant le Ramadan ?» Rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas musulman. Ben voilà, je fais de... Ensuite, d'autres, comme ailleurs, fuient le commercialisme devenu éhonté de cette période de l'année. D'autres fuient parce que c'est une période qui leur rappelle les profondes blessures subies par la religion. Il ne faut pas oublier cette catégorie de gens-là. Des blessures parfois beaucoup plus graves que celles-là. Hein? D'autres déplorent la place de la religion dans l'espace public. Il y a des raisons pour argumenter en faveur de ça. Les décorations, les chants de Noël, et ainsi de suite. Mais d'autres fêtes en se disant, il n'y a pas de quoi s'en faire avec ces détails du calendrier. C'est pas le seul endroit dans notre calendrier où la religion est présente. J'ai trouvé, par exemple, mardi, c'est nommé ici en l'honneur du dieu Mars. Mercredi, à cause de Mercure. Jeudi, à cause de Jupiter. Janvier, à cause de Janus, un dieu romain. Mai, à cause de la déesse Maya. Donc, il y a plein de repères. On peut ne pas en tenir compte, d'autant qu'il y a de bonnes raisons de dire que la fête de Noël, la nativité, c'est ce que je veux dire ici, Christmas en anglais, que ça a des origines profondément païennes. Et là, c'est intéressant de se le rappeler. Alors, il n'y a aucune référence au 25 décembre dans la Bible pour signaler que c'est le moment où le Christ serait né. Alors, selon Luc, en fait, il serait né probablement quelque part entre la mi-mars et la mi-novembre. Donc, ça n'a pas rapport avec le 25 décembre. Ensuite, si le 25 décembre est fêté, c'est fixé par l'empereur Aurélien au 3e siècle, qui voulait marquer par là sa conversion au mitraïsme, et Mitra serait né le 25 décembre. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on fête là. Et puis, c'était déjà à Rome la période des Saturnales, et dans l'hémisphère nord, c'était des fêtes qui soulignaient le solstice d'été, le retour de la lumière, des jours plus longs, étaient des fêtes qui étaient abondamment fêtées. Donc, on peut fêter cette période de l'année, pas Noël, en disant, en fait, une fête païenne. Maintenant, si on retire la religion des fêtes ou la période des fêtes, qu'est-ce qui reste pour les humanistes, les athées, les laïcs? Je pense qu'il reste l'essentiel, mon cher Michel.
Nous avons l'arbre de la connaissance que nous créons tous les ans et qui est un arbre avec des couvertures de livres dessus comme décoration essentiellement. Il y a des boules aussi qui rappellent les pommes qui étaient sur les arbres des anciens Celtes, en fait. Donc, ce n'est pas une... C'est une fête à la fois païenne, mais nous allons nous réunir le 23 décembre.
Vous célébrez comme
absolument.
Ça.
Absolument.
Ah ouais. J'ai déjà été assez célébré. Ouais. Puis ce que je voulais dire aussi, Michel, c'est que il y a cette idée de rituel qui est important, même si elle n'est pas rattachée à l'idée de religion. En philosophie, il y a une querelle qui est assez intéressante entre Wittgenstein et Frazer. Frazer, l'anthropologue, qui avait ramassé tous ces rites, ces récits, ces mythes de l'histoire de l'humanité, et qui les interprétait en disant « c'est parce que c'est une pensée primitive qui repose sur le principe d'identité ». Et Wittgenstein disait « non, 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 pas du tout, ça fait partie de notre nature humaine. Encore aujourd'hui, on embrasse une photo d'un être aimé, c'est quand même pas parce qu'on pense qu'elle va recevoir le bec, c'est parce qu'on exprime une émotion importante à travers des rites ou des rituels dans lesquels on cherche à exprimer ces émotions-là. On cherche parfois de la consolation, de l'inspiration, on marque un moment important d'une manière rituelle. Ce qui fait que chez les humanistes, on retrouve ça dans des cérémonies de mariage humaniste, dans des cérémonies de toutes sortes. Donc, et ensuite, si on retire aussi la religion, qu'est-ce qu'on trouve? Mais je pense qu'on trouve un moment de réflexion et d'affirmation de certaines valeurs avec nos amis, avec nos proches. Et je tiendrai à souligner ici que beaucoup des valeurs que porte le mouvement humaniste sont des valeurs qui sont parfois pas si éloignées de celles que la religion nous propose, mais affirmées et rejointes par un autre biais, un biais qui est celui de la raison, un biais qui est celui de la réflexion scientifique. Et je pense, je tiendrai à souligner aujourd'hui que par la science, on rejoint certaines de ces valeurs-là qui sont renforcées par le chemin auquel on y parvient. Alors, par exemple, je crois, moi, que des valeurs comme la charité, comprendre ce que c'est que l'altruisme biologiquement, ça donne un sens très profond à la reconnaissance de cette valeur-là. L'idée de fraternité, quand on comprend ce que signifie pour la biologie, pour le darwinisme, l'unité de la vie, ça prend une force qui m'apparaît extraordinaire. Quand on parle de valeurs comme la beauté ou le mystère, peu de disciplines comme l'astronomie peuvent nous en donner le sens. Alors donc, je pense que, comme disait Darwin à la fin de son livre, il y a de la grandeur dans cette vision du monde et de la vie. Et je pense qu'il y a de la grandeur dans cette vision du monde et de la vie que l'humanisme nous propose.
Alors, Normand for President, hein?
c'est important aussi, parce que toutes les critiques qu'on fait à la Coupe de Noël peuvent être un peu mises de côté. C'est bien sûr une fête capitaliste. J'ai vu hier une publicité là, avec un Père Noël méchant et des très mauvais mots. Mais au final, on en fait ce qu'on veut. L'idée du don n'est pas nécessairement associée au capitalisme. On peut vouloir faire des cadeaux, offrir à des gens simplement pour le bonheur de la fraternité, puis retrouver des valeurs comme la famille, l'amitié, l'amour, qui ne sont pas nécessairement religieuses ni capitalistes.
Exactement. Je veux dire, un dernier mot, c'est que cette année, on a perdu un éminent humaniste qui s'appelle Paul Kurtz, tu sais, il est mort, il était né en 1925, né en 2012. Alors, je voulais dédier ma chronique à ce monsieur-là, qui m'a tellement marqué, qui était tellement important pour moi. Ce monsieur-là disait, la période des fêtes, je ne la fête pas malgré que je sois humaniste. Je la fête parce que je suis humaniste. Et j'aime bien
Vous voulez rajouter quelque chose, M. Virard, là-dessus?
Eh bien, pour ceux qui désirent avoir plus de renseignements sur le mouvement humaniste au Québec, il y a un site web pour cela qui s'appelle assohum.org.